Allô ? Allô ? Je m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André Limbouchmaï au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter Parole aux auditeurs, votre émission 100% interactive. Le monde a célébré le 1er octobre courant la journée internationale de l'habitat et l'État congolais a initié plusieurs projets de logements sociaux pour faciliter aux Congolais l'accès à l'habitat. Le 21 septembre dernier, le ministre de l'économie et le directeur général de la foire internationale de Kinshasa ont annoncé à la presse la construction sur les sites de la Fikine de 1000 logements sociaux, soit 800 appartements et 200 villas. Par ailleurs, au cours du même mois, l'Institut National de Sécurité Sociale, INSS, en collaboration avec une entreprise égyptienne de construction, a mis en marche le projet de construction de 10 000 logements sociaux à Kinshasa, Lubumbashi et Bandundu. Ceci s'ajoute à tant d'autres initiés par le gouvernement depuis 2006. Pensez-vous que ces projets suffisent-ils à améliorer l'accès des Congolais à l'habitat? Nous en parlons avec Michio Uyumbu, ingénieur en bâtiment et travaux publics. J.R. Lungembo, Titi Mputu et Guma Zangou sont à la réalisation de cette émission supervisée par Nicole Ngaka et Pierrot Elameji vous la présente. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission au Capifoot. Chaque dimanche de 18 à 19h, autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
081-890-63-15, notre numéro d'appel pour intervenir en direct, nous faire le point sur le projet des logements sociaux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre aux Congolais d'avoir un habitat décent? Pensez-vous que ces projets suffisent-ils à améliorer l'accès des Congolais à l'habitat? Nous en parlons avec vos auditeurs des Radio Capi. Vous êtes à travers le pays, mais aussi à travers le monde. Mais en ligne, nous avons également ingénieur Michio Uyumbu. Vous êtes avec nous. Bonjour. Ingénieur Michio, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Vous êtes ingénieur en bâtiment et travaux publics, très intéressé bien sûr par les questions de l'habitat. Le monde a célébré le 1er octobre l'accès à l'habitat. Nous faisons le point par rapport à beaucoup d'autres de projets initiés par les gouvernements pour construire des logements sociaux, permettre à la population de pouvoir avoir accès bien sûr à l'habitat. Vous êtes dans le domaine, vous y travaillez. Alors, bien avant de pouvoir aller plus loin. Pour vous, qu'est-ce qui peut être qualifié un habitat décent? Parce que ce terme revient de temps en temps quand on parle du problème de logement, quand on parle du problème de l'habitat, on parle d'un habitat décent.
Absolument. Un habitat décent, c'est un habitat qui réunit les conditions minimum de confort. Mmh. Le confort, la sécurité, et qui met les occupants dans des conditions plus ou moins idéales, quoi.
Confort.
En fait, un habitat, voilà.
Mais quand on regarde aujourd'hui la manière dont les Congolais sont logés, il y a chacun qui se paye, qui achète un terrain, il se construit une maison. On voit aussi là où les gens louent, dans quelles conditions les gens vivent. Mais aujourd'hui, s'il faudrait qu'on puisse arriver à un logement, à un habitat décent, par où faudrait-il commencer aujourd'hui, ingénieur Michio?
Il est tout à fait évident que quand vous faites l'analyse sur la situation de l'habitat en République démocratique du Congo, vous constatez tout de suite que nous avons un déficit en logement d'un peu plus de 2 millions d'unités. Donc, s'il faut le faire, il y a tout un plan qui doit être mis en œuvre, il y a tout un programme, il y a toute une volonté, il y a toute une politique. Donc cela ne sera pas résolu avec des actions disparates de 1000 unités de logement, 5000 unités de logement, 10 000, parce que le besoin, il est très, très énorme.
Mmh. Et, voilà. quand vous parlez de plan, de la volonté, quelle peut être la part de l'État, mais aussi la part des habitants eux-mêmes, de la population dans les projets de l'amélioration de l'habitat?
Bon, absolument. Dans ce domaine de l'habitat, il n'y a que l'État qui peut réunir le maximum de moyens. Mmh. Parce qu'il faut savoir, premièrement, que les sols et les sous-sols sont une propriété de l'État.
Mmh.
Deuxièmement, il n'y a personne qui peut présenter des garanties financières comme l'État. Parce que le domaine de l'habitat, c'est un domaine qui exige des gros moyens. Et troisièmement, l'État, au travers de tous les services de l'habitat et bien d'autres ministères comme les travaux publics, réunit un maximum de cadres et des experts dans le domaine de l'habitat.
Mmh.
Donc, par rapport à ces trois paramètres-là, nous estimons que c'est l'État qui doit se mettre en avant-garde d'une politique cohérente en matière de l'habitat.
Mmh. Mais quand on regarde, bien sûr avant et après l'indépendance, on a vu des services publics comme par exemple les fonds d'avance, on a vu par exemple l'ONEL, ces services qui ont permis aux gens de pouvoir avoir accès. Mais à un certain moment, cela s'est arrêté brusquement et chacun aujourd'hui se débrouille pour se construire sa maison. Alors qu'est-ce qui a fait que tous ces projets qui ont été initiés, qui ont permis aux gens de pouvoir avoir accès à ces habitats, puissent s'arrêter brusquement et que chacun se débrouille aujourd'hui pour se loger?
D'abord, je veux vous rappeler une chose. En 1939, le roi des Belges avait décrété, et il y avait un décret selon lequel toutes les sociétés installées au Congo belge devaient pourvoir aux besoins en logement de leurs employés.
Mmh.
Et ça, c'était une obligation. C'est pourquoi vous avez vu, il y a eu des agences comme le Fonds d'avance que vous avez cité. Il avait eu l'organisation de Sud-Africain, l'OACI.
Mm-hmm.
Et puis il y a eu finalement l'ONL, l'Organisation nationale de logement. Alors, premièrement, c'est que c'était une exigence pour les employeurs de pouvoir au besoin en habitat de leurs employés.
Mm-hmm.
Et deuxièmement aussi, il y avait des structures financières qui accompagnaient ce projet de l'habitat. Mais malheureusement, si vous revenez par exemple de 1950 à 1959, vous constaterez qu'il y a eu plus de 30 000 unités de logement construites pour les comptes de l'OACI,
mm-hmm.
dans l'Organisation des Cités Africaines. Alors, et puis, depuis que notre pays a accédé à l'indépendance juste aujourd'hui, les chiffres que moi je détiens montrent clairement que nous, 50 ans après, nous n'avons initié qu'à peu près 3 000 à 5 000 unités de logement de la part de l'État. Donc, cela fait qu'il y a un grand déficit. Et aujourd'hui, s'il faut résoudre ce problème de l'habitat, il faut absolument mettre une bonne politique et mettre de moyens conséquents pour parvenir à combler rapidement ce déficit de 2 à 3 millions d'unités de logement que nous avons.
Voilà, on vous garde en ligne, ingénieur Michaud. Nous allons écouter aussi les auditeurs, ce qu'ils pensent de ces projets de construction des logements sociaux. Quelles sont aussi leurs propositions à eux pour arriver à un habitat décent? Voilà, autant de préoccupations. Vos points de vue sont les bienvenus dans cette émission au 081-890-63-15. Gabriel, vous êtes à Kinshasa et Charles aussi à Kinshasa. Gardez la ligne, nous sommes à vous.
Parole aux auditeurs.
Gabriel, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Voilà, Gabriel, c'est Pierrot.
Et aussi à tous les auditeurs d'ici pour la pandémie d'Ebola.
Voilà, bon, merci Gabriel. Oui, Gabriel, c'est Pierrot.
Oui.
Cette fois-ci, c'est Parole aux auditeurs avec Pierrot et la Meji. Je dis, venez les terminer au Okapi Service. Voilà, merci. Merci, bonjour, on vous écoute.
Je crois que tout en ne m'écartant pas de l'intervention de mon prédécesseur, quand il a parlé de l'historique à partir des fonds d'avance, de l'ONEL, et il a oublié aussi de citer l'INSS, où bon, c'est l'État qui gère, mais si on regardait comment tous ces immeubles sont gérés, je crois que ça laisse à désirer. Je vais parler par exemple, avant de projeter les grands systèmes là d'habitat, il y a eu déjà beaucoup de projets, beaucoup de politiques, et ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais je crois qu'on a abouti à rien. Bon, si au niveau du site de la FIKIN, on chercherait à ériger autre chose, parce que maintenant, il y a d'ailleurs, pour le moment, deux stations, même s'ils sont des locataires là, et un début peut-être des spoliations. À l'époque, quand on était jeunes là-bas, bon, il y avait des jeux, des soukissa, Bouambé, tout ça. Il fallait d'abord commencer par là pour rendre la FIKIN attrayable. Et pour rendre aussi ce milieu à ce qu'il soit très fréquenté. On eût été les grandes sociétés brassicoles et les autres entreprises privées. Que deviendrait la FIKIN pour le moment? Avec des locaux, des locations qui sont là-bas, des grands magasins. Moi, je crois en tout cela, il fallait d'abord, par exemple, à partir de la politique de l'Hôtel des Îles, dans les relations qui nous, le bailleur et les locataires, il fallait d'abord commencer par là. L'Hôtel des Îles édite toujours des règlements de l'intérieur, bon, il faut un préavis comme ça et tout ça, mais en tout ça, on trouve que les locataires sont toujours laissés à la merci et beaucoup de gens sont jetés dehors sans que l'État puisse intervenir.
Oui, voilà,
il faut choisir les moindres.
Voilà.
C'est d'abord par réglementer ce type d'abord de relations entre bailleurs et locataires. Et je vais revenir là-dessus. Pour le système de la DGRK, par exemple, ou bien de la DRPO dans les provinces, où on demande, par exemple, aux bailleurs, aux locataires, de couper sur les loyers, en ce qui concerne les IRL, des impôts sur le revenu locatif, et de donner directement à l'État. C'est mettre ces deux gens en conflit. Ok, l'État était là justement pour essayer de réglementer l'arbitrage, parce que quelqu'un a un niveau bien suivi. Alors je crois que c'est mieux de commencer par le type mesure, entamer d'abord les relations
avant de penser construire. Oui, bonsoir, si Gabriel.
Dans la production, un moyen qu'on pourrait peut-être entamer.
Merci Gabriel.
De subvenir à cela. Mais moi, je m'inscris en faux contre la spoliation, par exemple, de la FIKIN, ou si on chercherait à y ériger des habitations, que ce soit à titre lucratif ou à n'importe quel titre. Mais réhabiliter d'abord ce titre-là.
Merci Charles. Merci beaucoup.
Au même moment,
merci beaucoup, Gabriel.
Nous voyons dans les communes ou les terrains de foot.
Merci beaucoup, Gabriel. Bon, d'ailleurs, lors de ces points de presse où les ministres de l'économie et les directeurs généraux de la FIKIN ont pu s'adresser aux journalistes, ils ont expliqué pour dire que c'est pas une spoliation, c'est une entreprise chinoise qui a acheté, en fait, qui va construire ces 1000 logements. Nous avons même indiqué que c'est en termes de 100 logements, et puis 800 appartements et 200 villas. Ils ont dit que c'est pas une spoliation, c'est une manière de résoudre le problème de la même société qui avait déjà investi d'autres bâtiments sur les lieux. Mais vous pensez qu'avant de passer, bien sûr, à des grands projets pour construire des grands logements, il faut résoudre les problèmes d'abord de la gestion des immeubles qui appartiennent à l'État. Comment on résout les problèmes des bailleurs, des locataires qui sont dans ces maisons? Comment elles sont gérées? Où va l'argent avant de pouvoir initier d'autres projets? Merci beaucoup, Gabriel, de ce point de vue ici à Kinshasa. Charles est dans la même ville ici à Kinshasa. Bonjour, Charles.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien. Vous avez suivi notre compatriote qui pense qu'avant d'initier des grands projets pour les logements sociaux, il faut d'abord voir comment les immeubles de l'État qui existent déjà, qui sont gérés soit par l'INSS, soit par l'ex-ONATRA, comment ces immeubles sont-ils gérés avant de passer à d'autres projets. Quel est votre point de vue sur ces problèmes de l'accès à l'habitat?
Il fallait d'abord vous reliez à tout ce que je dis. Même qui se pose, ce n'est pas tout ce qu'on voit construire, n'est pas l'enceinte de la FIKIN, mais plutôt, n'est-ce pas, l'État doit prendre, n'est-ce pas, doit faire sa responsabilité sur les immeubles, n'est-ce pas, de l'État. Je vais vous citer, vous avez vous-même cité, évoqué l'exemple de l'immeuble de l'ONATRA, n'est-ce pas, si vous constatez cet immeuble, et vous verrez que derrière cet immeuble, bien, n'est-ce pas, qu'on est en train de faire le travail là, mais il y a toujours des saletés. Et vous verrez qu'il y a de ces immeubles, depuis, n'est-ce pas, que les Belges ont laissé ces immeubles, les gens qui habitent n'ont jamais même pensé à y mettre, n'est-ce pas, d'autres peintures à ces immeubles. C'est-à-dire qu'il y a un problème jusque-là. Ce n'est pas question, n'est-ce pas, de construire les immeubles, construire, n'est-ce pas, des locaux, mais plutôt, n'est-ce pas, prendre des soins à des immeubles, n'est-ce pas, qui sont construits sur la ville.
Voilà, Charles, permettez Charles, mais pensez-vous que ces immeubles, que ce soit ceux qui sont gérés par l'INSS ou par l'ex-ONATRA, pensez-vous que ces immeubles suffisent vraiment pour résoudre les problèmes de l'habitat, de l'accès au logement à travers le pays? Faudrait-il se limiter seulement à ces immeubles ou il faut étendre les projets pour permettre à d'autres Congolais d'être logés? Ils sont nombreux, tous ne vivent pas à Kinshasa ou aux endroits où il y a les immeubles, bien sûr, de l'INSS ou bien de l'ex-ONATRA.
Ce n'est pas question, on ne veut pas l'abondance des immeubles, n'est-ce pas, mais nous voulons, n'est-ce pas, la qualité de ces immeubles. Nous voulons que ces immeubles soient bien entretenus. Même si on va construire d'autres, est-ce qu'on pourra, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, aller bien les soigner et comprendre? Là, on se pose le problème, mais le niveau, n'est-ce pas, des vies des gens, la façon dont les Congolais sont mal habitués, n'est-ce pas, à jeter de l'eau à travers les immeubles, à préparer, n'est-ce pas, ces aliments, jeter de l'eau dans la rue, là, ça pose problème. Il ne suffit pas de construire, mais plutôt, n'est-ce pas, d'être des soins sur ce qui est déjà là présent. Sur ce qui est déjà présent, vous voyez comment, n'est-ce pas, on est en train de l'entretenir. C'est mal entretenu, c'est mal géré d'abord. D'abord, l'État ne s'occupe même pas. C'est là, vous voyez, on se demande si on a les ministères, n'est-ce pas, je ne sais pas si ça existe, de l'habitat, c'est pas de l'urbanisme.
L'habitat, oui, le ministère existe, oui.
Oui, je ne sais pas si ce ministère existe. Et je ne sais pas aussi si l'hôtel des villes fait son travail. Si l'hôtel des villes faisait son travail, on les voit que c'est le boulevard des 30 juin au niveau du centre-ville. Mais descendez au moins dans les communes, dans les lointaines, descendez dans les bidonvilles, c'est ça, et là, Maluku, et comme ça, vous verrez que l'habitat, là où les gens habitent, vraiment, c'est ça. Mais il faut que l'État, n'est-ce pas, mon cher ami, s'implique, n'est-ce pas, à pouvoir éduquer, n'est-ce pas, orienter, n'est-ce pas, ces peuples. Parce que nous avons un peuple qui n'a pas suffisamment, n'est-ce pas, un certain nombre de maturité. Alors, il faut que l'État, n'est-ce pas, puisse s'impliquer.
Merci Charles. Voilà, merci Charles. Il faudrait que l'État s'implique d'abord. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de bâtiments, même si on pourra construire aujourd'hui, que ce soit sur les sites de la FIKIN, que ce soit ce qui a été annoncé par l'INSS, 3700 logements sociaux à Kinkole, ici à Kinshasa, 1650 à Lubumbashi, dans la province du Katanga, 600 dans la province de Bandundu. Vous dites qu'il ne suffit pas de pouvoir les construire autant, mais il suffit aussi de savoir ce qui existe, comment cela est géré et entretenu. Vous êtes revenu au point de vue de Gabriel qui était ici à Kinshasa. Nous avons Blaise qui est à Isiro, en province orientale. Bonjour Blaise. Blaise, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute Blaise. Pensez-vous que la construction de toutes ces maisons, si cela a lieu, parce qu'il y a eu beaucoup de projets qui ne sont pas réalisés, cela peut vraiment résoudre le problème de l'accès à l'habitat? Voilà, on a perdu Blaise qui nous a appelé d'ici en province orientale. 081-890-6315, c'est notre numéro d'appel. Nous allons revenir à vous, ingénieur Michaud, vous êtes avec nous sur les antennes.
Oui, je vous écoute.
Vous avez suivi les deux compatriotes et ils pensent que le problème, c'est pas aujourd'hui de pouvoir construire d'autres immeubles, d'autres logements, mais c'est d'abord savoir comment on gère ce qui existe déjà et comment on va les gérer dans l'avenir. Ils sont un peu très, très inquiets. Mais il y a aussi ce problème, vous avez évoqué la loi de 1939 qui avait obligé les entreprises à pouvoir construire des maisons pour leurs employés, mais aujourd'hui, je sais pas quel type d'entreprise nous avons qui ont quel capitaux aujourd'hui pour pouvoir construire des maisons. Alors, comment aujourd'hui on peut résoudre ces problèmes des entreprises qui peuvent construire des maisons pour leurs employés, à part ceux qui travaillent peut-être dans les secteurs miniers, mais aussi la préoccupation de nos compatriotes qui pensent que l'essentiel, c'est pas de construire, mais d'abord d'entretenir ce qui existe.
Non, mais là, il y a deux problèmes qu'on doit absolument séparer. Il y a un problème sur la gestion de l'immobilier. Il y a un deuxième problème sur les besoins en unité de logement. Donc, il est tout à fait vrai que la plupart des unités de logement que nous avons dans la ville, qui ont été construites dans les temps, aujourd'hui ne répondent plus aux conditions décentes pour qu'on puisse y habiter. Mais là, malheureusement, on n'a pas encore défini chez nous ce qu'on appelle ailleurs les salubrités de logement. Quand vous êtes en Belgique, en France ou dans d'autres pays,
On a défini quelles sont les conditions pour qu'un habitat soit décent. Et quand vous ne remplissez pas ces conditions-là, vous n'avez pas le droit de loger des gens dans ce genre d'habitat. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas défini. Donc, moi, je pense que de ce côté-là, il faut qu'il y ait une loi sur la gestion immobilière qui définit l'insalubrité ou les limites au-delà de quelles on ne peut pas accepter pour qu'un habitat soit, ou qu'on puisse y loger des gens là-dedans. Là, c'est un problème avec le Parlement. Alors, un deuxième aspect, c'est le besoin d'unité de logement. C'est tout à fait vrai que le besoin, c'est énorme. Donc, aujourd'hui, on ne pourra pas dire qu'on ne va pas construire d'autres logements parce que le peu que nous avons, nous ne savons pas le gérer. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre des mécanismes pour que le logement qui existe soit géré correctement, pour que les personnes qui habitent, habitent dans des conditions décentes. Et le besoin en logement, ça, c'est un deuxième problème. Alors, pour le troisième problème que vous avez soulevé, vous avez dit que aujourd'hui, je pense que les sociétés sont en train de faire tant soit peu leurs efforts. Mais il va falloir que l'État les assiste dans leurs efforts. Comment l'État peut les assister? Aujourd'hui, je pense que vous êtes au courant de, je ne sais pas comment on appelle ça, la cité Laurent-Désiré Kabila, que la FNEL est en train de construire du côté des CPA. Donc, je crois que si j'ai le chiffre exact, c'est un peu plus de 1000 unités de logement que la FNEL est en train de construire là-bas. C'est déjà une action, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir féliciter. Alors, je vois les entreprises qui sont dans les domaines de la télécommunication, et qui sont les opérateurs de télécommunication. Ceux-là, si l'État les accompagne à leur octroyage de terrain, en définissant une politique globale de l'habitat, je pense que ceux-là pourront bien pourvoir aux besoins en logement de leurs employés.
Mais aujourd'hui, par exemple, on voit de plus en plus des banques qui s'installent, hein, des entreprises qui payent leurs travailleurs à travers les banques. Et les employés peuvent aujourd'hui solliciter des crédits bancaires, que ce soit pour construire. Mais faudrait-il que l'État puisse aller aux côtés, n'est-ce pas, de ces sociétés pour pouvoir permettre aux employés d'avoir des terrains? Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un va solliciter un crédit bancaire, il va payer là où il paye, il construit la maison de sa façon. Et ce qui fait qu'on ne peut pas avoir une cité modernisée, une cité peut-être avec des belles avenues, parce qu'il y a un peu, chacun retire de l'argent, il va acheter là où il peut acheter. Faudrait-il un partenariat public-privé dans ces domaines pour permettre à ce que les gens qui peuvent avoir accès au crédit aient aussi accès facile au terrain, aux endroits mieux lotis, pour permettre à ce que l'habitat puisse répondre quand même aux critères, aux normes?
Absolument, là je suis d'accord avec vous, c'est ce que j'étais en train d'évoquer au début de l'émission. Donc il faut une politique cohérente en matière d'habitat. Dans cette politique cohérente en matière de l'habitat, il y aura absolument une exigence d'un partenariat public-privé. Donc l'État se met en avant-garde et il définit les grandes lignes directrices et il dit voilà ceux qui veulent m'accompagner, voilà certaines facilités que moi je peux vous octroyer pour que vous puissiez m'aider à m'accompagner dans cette politique de l'habitat que j'ai. Donc ce que vous avez dit après, dans le cadre de notre profession, de temps en temps, nous sommes en contact avec les gens qui vont dans les banques, mais ce sont des actions isolées. Et nous croyons que les banques auront intérêt d'accompagner l'État, mais il va falloir qu'il y ait une volonté manifeste de l'État et un partenariat public-privé, comme vous l'avez dit tantôt.
Voilà, nous avons Terani qui nous appelle de la France, je crois bien, et puis ingénieur Nandi qui est à Guémena dans la province de l'Équateur. On commence avec vous. Terani, vous êtes sur les antennes, bonjour.
Allô?
Allô, bonjour Terani, bonjour.
Non, c'est Tétani, monsieur Tétani, j'appelle de la France. Hein?
Oui, vous êtes dans quelle ville précisément, oui?
Oui, bonjour Radio Okapi, merci beaucoup de nous tenir informés de loin. Alors, j'aimerais juste une petite contribution parce que nous attendons trop de l'État. Le pays est vaste. J'aimerais savoir, pour aider dans le domaine de l'habitat, existe une structure où nous, la diaspora, nous pouvons collecter et acquérir aussi un logement. Voilà. Voilà, mes priorités seront données aux compatriotes qui sont au pays, quoi. Voilà.
Ah, voilà. Vous souhaitez savoir auprès de l'État s'il y a une structure qui est organisée pour faciliter aux Congolais de la diaspora de pouvoir s'investir quand ils ont besoin d'acquérir un terrain pour pouvoir construire, par exemple. On pourra peut-être demander à notre invité ingénieur Michaud qui est dans les domaines s'il y a une structure comme ça qui existe qui facilite aux Congolais de la diaspora l'acquisition de l'habitat ici au pays. Il pourra vous donner la réponse comme vous êtes en train de suivre cette émission sur www.radiocapi.net. Merci beaucoup, Tétani, de nous avoir appelé des Bordeaux cette enfance. On revient à
RDC. Voilà. Et c'est voilà. Je répète à nos compatriotes, c'est juste pour contribuer parce que les pays valent. Mm-hmm. On a déjà la guerre dans les Kivu. L'État ne doit pas être partout. Comme disait un jésuite au collège Bobo, alors Albert, que comme disait Kennedy, hein, il ne faut pas demander à l'État ce qu'il doit faire, ce que vous pouvez faire aussi. Voilà, parce que l'État ne peut pas tout faire. Voilà. Bon, je vous garde pas longtemps. Merci beaucoup. Merci à la dame aussi qui m'a passé rapidement.
Merci.
C'est rare. Souvent, je traîne en vain.
Merci beaucoup
à Radio Capi. Au revoir.
Merci. Et... merci, Tétani. Passez une bonne journée à Bordeaux, en France. Merci. Vous avez remercié la dame, Téti, qui s'occupe bien des auditeurs. Merci beaucoup. Mais vous pensez aussi, vous ajoutez pour dire qu'il ne faut pas toujours attendre de l'État. Les gens eux-mêmes peuvent aussi développer d'autres mécanismes pour pouvoir résoudre ces problèmes de l'habitat, pas seulement attendre tout de l'État. Mais merci beaucoup. L'invité pourra nous dire s'il y a des structures qui facilitent aux Congolais de la diaspora l'acquisition de l'habitat ici au pays. Mais nous allons à Guémena, où se trouve ingénieur Dandy. Bonjour, ingénieur. Ingénieur Dandy, vous êtes avec nous. Bonjour. Apparemment, il est distrait sur sa ligne à Guémena dans la province de l'Équateur. Nous revenons à vous, ingénieur Michaud Oyumbu. Vous avez suivi notre ami qui nous a appelé de Bordeaux. Y a-t-il, vous qui êtes dans le domaine de l'habitat, y a-t-il une structure aujourd'hui qui peut faciliter à un Congolais qui est à l'extérieur de pouvoir acquérir un habitat, que ce soit même un terrain, s'il a besoin de construire? Y a-t-il une structure qui existe comme ça au niveau des institutions publiques?
Bon, à ma connaissance au niveau de l'État, je ne suis pas au courant, je connais rien, mais au moins il y a des partenaires privés qui sont dans le domaine et qui essaient de collaborer à titre privé avec quelques-uns de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Mais comme je l'ai dit tantôt, là, je ne voudrais pas que les gens nous comprennent mal. C'est vrai qu'on ne peut pas tout attendre de l'État.
Mm-hmm.
Mais il faut que les gens se mettent d'accord que c'est l'État qui se met en avant-garde. C'est l'État qui définit les options, les orientations. Aujourd'hui, Pierrot, je ne peux pas me réveiller le matin, aller m'installer quelque part et dire que je suis en train de créer une ville ou faire l'extension d'une ville. Parce que toutes ces choses-là doivent être faites par des lignes directrices.
Mm-hmm.
Et celui qui se met en avant-garde, c'est l'État. Donc c'est tout à fait clair. Aujourd'hui, qui décide de l'extension d'une ville? Qui décide de la création d'une ville,
mm-hmm.
qui décide de la création de lotissement, c'est encore l'État. Donc nous ne sommes pas en train de trop demander à l'État, mais nous disons tout simplement que lui peut se mettre en avant-garde, il organise les choses et il fait, tel que nous venons de le dire, un partenariat public-privé, aussi bien avec les opérateurs, les promoteurs immobiliers qu'avec les banques, pour que les actions soient beaucoup plus coordonnées et beaucoup plus efficaces. Parce que ce que les gens oublient, c'est que depuis 1960, que notre pays a accédé à l'indépendance, le pays a évolué en autoconstruction. Ça produit quelques résultats. C'est le résultat que nous avons aujourd'hui. Un déficit de plus de 10 millions d'unités de logement. Nous estimons que s'il y a eu des actions de la part de l'État, on n'aurait pas eu un déficit aussi important en matière de logement.
Et au-delà de ces déficits, il faut aussi ajouter même les logements qui existent, parce que vous avez évoqué l'autoconstruction aujourd'hui avec tous ces problèmes de l'environnement qui se posent, des cités qui disparaissent, déjà même qui perdent leur maison parce qu'ils sont construits sur des pentes avec ces problèmes de ravins. Malheureusement, il faudrait peut-être que l'État puisse être plus regardant à ce niveau-là. Merci beaucoup, on vous garde en ligne. Il est temps d'écouter Jean-Paul qui est à Bounia et Rachel qui est à Issir. On va revenir à vous, 081 890 6315. C'est notre numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission consacrée, bien sûr, à l'accès à l'habitat.
Radio Capi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien du gouvernement de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.
Nous avons Jean-Paul qui nous appelle de Bougne en province orientale. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour, bonjour monsieur l'alimentaire.
Vous avez suivi les commentaires des uns et des autres par rapport à tous les différents projets initiés par le gouvernement de la RDC pour faciliter l'accès au logement. Pensez-vous que cela est suffisant? Par exemple, vous qui êtes à Bougna, qu'est-ce qui peut être fait là-bas pour permettre à ce que les gens puissent avoir un habitat décent?
Bon, parler d'un habitat décent, c'est normal. Moi, je suis pas du côté négatif pour dire que l'État ne puisse pas faire, mais...
Jean-Paul, on a des petits soucis. Oui, Jean-Paul, on a des petits soucis. Essayez de vous déplacer un tout petit peu, mais continuez votre point de vue parce que là, la ligne a tendance à se détériorer. Mais vous pouvez continuer à intervenir pendant que vous vous déplacez. On vous écoute.
Je me déplace maintenant, c'est vous m'écoutez.
Allez-y, continuez à intervenir, oui.
Oui, je disais que si l'État arrive à construire et établir un projet par rapport à la construction d'habitats, bon, moi je trouve que c'est salutaire parce que vous êtes sans savoir avec moi que le Congo, depuis un certain temps, est en train de sombrer. Les gens ne travaillent pas, les papas, mères, comme ça, sans laisser même une portion de terre aux enfants. Bon, moi, je trouve que c'est normal, mais que cela soit au profit, justement, de cet État. Pourquoi? Parce que nous avons, depuis 1960, je crois, avec le système de Onel, il y a des maisons de Onel, mais il y a eu des gens qui ont habité Onel, et aujourd'hui, ont contribué, que je dise, passez-moi cette expression, que je dise, ils ont contribué à la destruction de l'État. Mais pour moi, lorsque l'État projette un tel projet, passez-moi cette autologie, donc, parce que les gens vont quand même me dire que nous habitons chez nous, alors que, au-delà de cette construction, les gens, la population doit être consciente qu'ils doivent contribuer.
Merci.
Une autre question. Allô?
Oui, allez-y, on vous écoute, Jean-Paul. Oui, on vous écoute, allez-y. Oui.
Allô? Il y a aussi une autre question, et peut-être un questionnement qui pourrait nous envoyer un peu aller très loin. C'est que l'État, en faisant un tel projet, est-ce qu'il pense que, ça va éradiquer la pauvreté? Je ne pense pas, mais plutôt, l'État crée encore une autre sorte de dépendance de la population.
Comment?
Or, la population, je vais m'expliquer. La population veut, vous voyez, en tant qu'être, l'être humain a besoin d'être indépendant, c'est-à-dire qu'il se suffise quelque part en lui-même. Avoir sa maison à lui, sans payer quoi que ce soit.
Voilà, là on a perdu. Là on a des petits soucis. On a des petits soucis avec la ligne de Jean-Paul. Oui, Jean-Paul, on commence à avoir des petits soucis avec votre ligne. Mais dis-moi, votre inquiétude, c'est par rapport au fait que ça soit l'État qui puisse construire ces maisons pour donner ça à la population, les gens puissent payer auprès de l'État. Vous pensez, pour vous, qu'ils ne sont pas assez indépendants, il serait mieux que quelqu'un travaille, puisse procurer lui-même son habitat selon ses propres moyens. Mais alors, parce que nous avons évoqué tous ces projets de l'ONEL, ce qui veut dire que peut-être qu'une maison qui peut aujourd'hui coûter 20 000 dollars, quelqu'un ne peut pas, de par son salaire, pouvoir avoir accès à cette maison. Mais si c'est un projet initié, par exemple, par l'État, il peut occuper la maison et commencer à payer par tranche d'une manière, par exemple, mensuelle pour 2-3 ans et jusqu'à ce que l'habitat puisse revenir définitivement à l'occupant. Voilà. Mais il y a autant de projets, parce que vous avez évoqué ces projets, ils ont été nombreux qui ont été, bien sûr, initiés. On se rappellera aussi du projet de février 2006 annoncé par l'État, qui pensait aussi qu'il fallait construire 3080 logements sociaux. Les projets avec le vice-ministère chargé des besoins sociaux des bases. Il y a eu aussi des projets ici à Kinshasa avec la pépinière de Bandalungwa qui a été, on a déguerpi ce qui était là pour y construire des logements sociaux. On a vu aussi l'hôtel des villes de Kinshasa avec le projet Rimokine pour les logements sociaux. Mais malheureusement, autant de projets initiés qui n'ont pas pu aboutir au Kassai occidental. Je crois même les murs des maisons sont restés à 2-3 mètres, hein, les maisons n'ont jamais était inachevé et que les gens y habitent, c'est ça vraiment la grande difficulté. Mais vous pensez que c'est mieux qu'il y ait des projets et qu'on facilite à la population l'accès à l'habitat. Merci beaucoup Jean-Paul de Bounia. Nous restons en province orientale avec Rachel Aïsiro. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Rachel.
Oui, je voulais un peu dire qu'on fera ce projet. C'est quand même encourageant et j'ai quelques problèmes. Je faisais un peu de maths si ça se fait seulement au niveau des questions ou c'est partout dans le province. Parce que comme ici, si je n'ai rien fait. Ça vient à peine de commencer, je ne sais pas.
Voilà, pour les deux projets, Rachel, que nous avons avec nous ici, les projets pour le site de la foire internationale de Kinshasa, c'est uniquement à Kinshasa, mais les projets avec l'INSS, c'est pour 10 000 logements sociaux. On a parlé de à travers le pays. On a d'abord la première partie, ça sera 3 700 à Kinshasa du côté de Kinkolé, 1650 à Lubumbashi dans le Katanga et 600 dans la province de Bandundu, mais ça va continuer ici. Ici, hein, dans d'autres provinces. Bien sûr, ce sont des projets. On attend que cela puisse se réaliser. C'est ça un peu les éléments des réponses qu'on peut avoir à ce niveau. Rachel, merci beaucoup de nous avoir appelé d'Issiro en province orientale. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous allons revenir à vous, ingénieur Michaud Oyombo. Vous avez suivi l'inquiétude de notre ami de Bounia qui pense que le fait que l'État puisse construire ses maisons puisse donner à la population, ils ne trouvent pas que ça peut faciliter aux gens eux-mêmes de pouvoir avoir accès à l'habitat. Pour lui, il pense qu'il serait mieux de laisser chacun, avec ses moyens, pouvoir se procurer un logement. Mais d'une manière technique, pratique, comment peut-on procéder si jamais l'État est construit des logements sociaux? Pratiquement, comment cela se fait pour que la population puisse avoir accès à ces logements? Cela veut dire que les gens vont, avec l'argent cash, acheter ces maisons sont données à crédit. Comment pratiquement cela peut se faire?
Non, mais quand vous parlez de logements sociaux, ça veut dire que des logements qui ont un caractère social. Ça veut dire exactement que c'est destiné à une catégorie de la population qui auront du mal à construire seule leur maison. Et donc là, l'État met des moyens et il leur donne certaines facilités et les coûts de ce genre de logements sont généralement des logements de coûts trop bas. Alors vous comprenez que par l'autoconstruction, le coût d'une unité de logement sera de loin beaucoup plus important et que la catégorie, il y a une catégorie de population qui ne sera pas accédée à ce logement-là. Et mon inquiétude, même si ce que vous avez évoqué tantôt, là, le logement qu'on va faire à la cité, la question que je me pose, est-ce qu'un citoyen, un Congolais moyen, pourra-t-il avoir accès à ce logement? Forcément, parce que nous savons bien que quand vous y mettez de l'argent pour construire une maison, vous devez rentabiliser cette maison par rapport à une certaine durée de temps. Or, si aujourd'hui on y construit des appartements de 2-3 chambres, je suis sûr que les coûts de ces appartements ou les coûts de ces villas-là ne seront pas abordables pour les Congolais moyens. Donc c'est ça la difficulté. Un logement social, évidemment, les logements sociaux d'une manière générale, ce sont des projets que l'État initie pour la population moyenne. Et donc ceux qui n'ont pas le moyen de construire des maisons à des coûts très élevés. Et cette action-là est très importante. Il faut que les gens sachent qu'aucun pays au monde n'a développé l'habitat sans qu'il y ait du logement social. C'est vrai que les promoteurs d'immobilier sont là, les privés. Mais les privés, lui, ne viendra pas pour mettre son argent, pour rien. Il vient mettre son argent, il doit calculer la rentabilité. D'autant plus que généralement, il travaille avec les banques. Il y a des intérêts qu'il faut rembourser. Il y a les principales qu'il faut rembourser. Il y a un coût, il y a un délai de remboursement. Donc, il doit pouvoir faire ses calculs avant pour qu'il puisse amortir le capital qu'il a investi.
Voilà. Mais malheureusement, on voit plusieurs projets, comme vous l'avez suivi, j'ai évoqué autant de projets à travers le pays. Il y a même un moment où la Ligue congolaise pour la lutte contre la corruption avait évoqué, bien sûr, qu'il y a eu beaucoup de trafics et de détournements de fonds dans tous ces projets de logements sociaux, parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont été lancés, mais malheureusement, non concrétisés. On a évoqué la situation à Rimokine, à côté de Pongavis, ici à Kinshasa. Nous avons évoqué la cité de l'espoir je crois dans la commune de la Célé, je crois peut-être, il y a autant de projets. On a vu ici, non loin d'ici, du côté de la commune de Bandalungwa, il y a une pépinière où des mamans maraîchères qui exploitaient ces terrains. Il a été récupéré par l'État pour un projet de logements sociaux, mais malheureusement ça fait 3 ans que le site est occupé par une entreprise chinoise. On a vu des projets comme ça à gauche à droite qui ne se réalisent pas. Mais alors dans ces cas, il va être difficile même pour les autres projets que la population puisse avoir, puisse épouser, n'est-ce pas, effectivement, tous ces projets initiés quand il n'y a pas de concrétisation. Mais le problème de concrétisation peut être lié à quoi? C'est le problème de fonds, c'est le problème de volonté, ou tout simplement c'est le problème de projets qui ne sont pas assez préparés, ingénieur Michaud?
Vous savez, quand vous entrez dans les projets de logements sociaux, ce sont des projets de grande envergure qui demandent beaucoup de moyens et qui demandent aussi beaucoup d'intelligence, beaucoup de planification. Malheureusement, pour la plupart des projets que vous avez évoqués là, je n'ai pas la maîtrise complète de ce qui s'est passé pour vous dire qu'il y a eu ça ou ça, mais j'ose croire que quand un opérateur ou un promoteur immobilier, quand il a reçu les fonds pour commencer un projet, je crois qu'il doit le commencer, parce qu'il est lié à un contrat et il a des obligations vis-à-vis de ce contrat-là. Donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans les différents chantiers ou dans les différents projets qui ont été annoncés mais qui n'ont jamais été exécutés. Mais je pense que ça demande quand même une très bonne organisation dans tout ce ensemble de projets. Peut-être qu'ils ont été annoncés avant, sans que toute la machine soit mise en place pour que le démarrage soit effectif. Bon, c'est donc, moi je crois que ça peut être ça. Mais néanmoins, c'est une très 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 grande machine. Et vous avez évoqué, vous vous souvenez, il y a, je crois, 2-3 ans passés, la crise qui a commencé aux États-Unis, c'était la crise en Europe.
Dans la crise de l'immobilier, oui.
C'est parti de l'immobilier. Donc c'est un secteur très sensible, un secteur où il y a de gros moyens qui sont mis en place. Mais quand vous mettez de gros moyens en place, il faut mettre des structures pour se payer que ces moyens-là sont affectés aux projets pour lesquels ils sont destinés.
Et Kabacha est à Bukavu, Ismaël Albumbashi, on commence avec vous, Kabacha, bonjour.
Bonjour, papa.
Vous êtes à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. On vous écoute par rapport à ces problèmes de l'accès à l'habitat, les projets initiés ici à Kinshasa, peut-être à Bukavu. Vous avez déjà aussi parlé des projets de logement sociaux, oui.
Et l'habitat n'existe pas presque en RDC, car la plus grande partie de la population congolaise ne vit que dans les villages. Mais en aucun cas notre gouvernement ne pense à ceci. L'habitat pour le gouvernement congolais, c'est presque les 15% de la population qui sont concentrés dans les centres urbains au moment où c'est la campagne qui constitue la base politique de nos gouvernants. La base donc de toute la vie nationale. Et pour bien remercier ces villageois, notre gouvernement s'en fout et se concentre que sur les villes et sur les centres urbains. Et nous nous demandons, est-ce que les populations des centres urbains ont besoin de promesses pour vivre? Est-ce que il faut leur construire des logements sur papier? Donc une sorte de chapelet de bonnes intentions, comme si la population ne vit que des bonnes et que des bonnes intentions. Des villes sans parking, sans quartier, inaccessibles, en tout cas c'est trop grave. Et même, vous allez voir, même il n'y a pas de courant, il n'y a pas même de l'eau. L'État ne prévoit presque rien. Et gouverner se prévoit, mais notre gouvernement ne suit que les initiatives privées de la population. Si par exemple les chauffeurs jugent bon de placer des parkings sur la route, et vous allez voir, l'État les suit avec les taxes, et ces taxes sont sans contrepartie. Et si la population leur demande des contreparties, une population bien avisée, vous allez voir que ces populations sont jetées dans la prison. Alors nous disons, Kinshasa n'est pas le Congo, et encore plus ces maisons, est-ce qu'elles seront destinées à quel genre de population? Est-ce que c'est au Congolais moins nanti ou au Congolais nanti? Nous pensons que c'est au Congolais nanti. Donc ce n'est pas ça ce qui serait la préoccupation de notre gouvernement, parce qu'à des problèmes spécifiques, il faut des solutions bien adaptées.
Voilà, merci. Donc,
nous restons croire que, comme solution, nous restons croire que, il faut que l'État puisse penser à l'extension et à la création des villes dans les centres urbains, et il faut aussi des lois bien adaptées pour la construction de ces maisons, pour la construction de ces centres, et avec une police, pas une police de pacotille, une police vraiment réelle et une bonne justice qui va suivre. Mais sans cela, en tout cas, ce qu'on est tenté de faire, c'est encore faire maigrir la population qui ne vit que d'espoir, qui vit d'espoir. Je vous remercie.
Merci, Kabacha. Vous êtes très inquiet. Vous dites qu'il faudrait que tous les projets de logements sociaux qui soient initiés puissent aussi s'étendre vers l'intérieur, enfin, dans d'autres provinces. Hein. Il ne faut pas penser seulement aux populations qui vivent déjà dans des villes comme à Kinshasa, Lubumbashi, Mbujima et partout ailleurs. Il faut aussi penser au village, il faut une politique d'extension des villes, mais il faut aussi des lois adaptées pour pouvoir mieux gérer ces nouvelles cités qui peuvent être créées, mais aussi les sécuriser. Merci beaucoup de votre point de vue. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, moi, bonjour à tous les auditeurs de Radio Katanga.
Merci bien, on vous écoute, Ismaël.
Oui, cette initiative est vraiment à louer. Pourquoi on dirait ça? C'est parce que dans le milieu urbain dont nous vivons, il y a plus de difficultés. Je viens à l'intervention de notre frère qui a pu intervenir depuis France.
Mm-hmm.
C'était que lui est aujourd'hui logé, n'est-ce pas? Il peut y avoir aussi cette diaspora qui vivent aussi au Congo. Où est-ce qu'ils seront aussi logés? Comme et s'ils vivent, par exemple, dans des bars, ça pourrait coûter plus que cher. Alors cette initiative est vraiment louée. Pourquoi je dirais ça? C'est parce que ça favorisera aussi ceux qui n'ont pas aussi un lieu pour accéder à ce qui est aussi un logis favorable. Et je demanderai aussi une petite question à l'invité. Mais pourquoi on a pu interdire cette initiative? Parce que c'était déjà en marche et c'était interdit. Pour mon avis, je dis que c'est parce que présentement, pour construire à ceux qui veulent construire, ils passent pas soit par la commune, par l'environnement et l'habitat, et ils font ce qu'on appelle l'autorisation de bâtir. Je vois, pour mon point de vue, c'est parce que c'était ainsi, ça fait entrer aussi que c'est l'argent pour l'État ou ça fait aller perpétuellement. Et je devais encore contribuer dans le sens que, par exemple, à l'université de Lubumbashi, Kasaba, là où est logé les étudiants, ils souffrent. Vous pouvez même voir 5 étudiants sur un petit département qui ne favorise même pas. Soit vous pouvez avoir même ceux qui ne continuent pas à étudier sur l'université, mais qui restent toujours logés là. Soit pour avoir une chambre, c'est extrêmement difficile. Alors, je souhaiterais à ce que cette initiative puisse aussi arriver jusqu'à ces milieux. Sinon, nous ne pouvons pas parler de village. Pourquoi? Parce que les villages, les places sont abondantes et on ne peut jamais songer à ce que je sois logé tel ou tel part, dans des arbres de vie tels que nous sommes. Nous voyons aussi l'urbanisme et l'habitat ne s'occupe pas réellement de ce qui est. Pourquoi? C'est parce que nous voyons la construction, les différentes constructions qui sont en désordre. Des avenues, il n'y en a pas même.
Mm-hmm.
Vous allez voir, là où les gens vivent, c'est là où se trouvent même les déchets, les immondices, des fois c'est tout cela. Ça ne donne pas aussi l'aspect même de la ville, d'autres quartiers, d'autres parts. Et je demanderai aussi à ce qu'il y ait aussi un contrôle, un contre-suivi, à ce que dans des provinces telles qu'il y a Kanangéa, un cas qu'on appelle Kato, Kroa, on appelait les camps colonies. Quel a été, quel est l'aspect même présentement de ces camps, bien que c'est déjà été des maisons. C'est vraiment, si vous remarquez, des maisons c'est de la même forme, de la même taille, ça donne vraiment tout l'essence même de la ville. Aujourd'hui, ce genre de négligence donne maintenant la multiplicité des maisons et des conditions de vie ne permet même pas. Vous pouvez voir sur une parcelle, c'est 30 personnes, soit c'est 15 personnes qui vivent, mais qui ne sont même pas existées. Alors, ce genre de maisons, ça va avoir aussi l'ampleur de notre pays.
Merci, Ismaël. Vous êtes à Lubumbashi. Vous souhaitez, pour vous, vous pensez d'abord, vous louez l'initiative, vous souhaitez que ça puisse continuer, mais vous êtes aussi très inquiet. La situation que vous avez évoquée par rapport au logement dans les sites universitaires, hein, vous souvenez-vous que ces universités, que ce soit à l'université de Kinshasa ou de Lubumbashi, ont été construites peut-être pour 3 000, 5 000 personnes, mais aujourd'hui on en héberge jusqu'à 30 000, 20 000. C'est difficile de loger des personnes dans ces conditions. On n'a pas ajouté les bâtiments, on n'a pas ajouté les dortoirs, mais ce sont les mêmes qui ont existé depuis 60 pour, comme j'ai dit, pour 3 000, 5 000 personnes qui en hébergent aujourd'hui 25. C'est ainsi que les internes ne quittent jamais les sites universitaires, ils continuent à y vivre. Il y a tous ces problèmes qu'il faudrait résoudre et loger, mais il faut le problème de l'assainissement de l'environnement. Et vous pensez qu'il serait mieux pour l'État de penser à tout cela. Mais nous allons rester à Lubumbashi avec Alfred. Bonjour Alfred. Alfred, bonjour.
Bonjour, bonjour.
On vous écoute, Alfred.
Bon, je vais un peu intervenir, mais je préfère intervenir à Lingala parce que je crois que au Capi est presque partout, parce qu'il y a des mamans aussi où il y a des vieillards qui ne connaissent pas les Français, mais ils peuvent suivre à Lingala.
Oui, mais Alfred, il y a aussi les gens qui écoutent peut-être aussi dans les fins fonds du Katanga ou soit aussi du Kasai qui n'écoutent pas aussi les Lingala. Oui, et c'est aussi ceux qui nous suivent en direct sur Internet à l'étranger. C'est pourquoi on souhaite être de se comprendre au même moment plutôt que de traduire. Voilà, et de traduire encore. On vous écoute.
Ok. Je vais dire seulement ceci que il y a un problème au niveau de notre gouvernement. Il ne réalise même pas ce qu'il est tenté de promettre. Je peux prendre le cas. On peut mettre un terrain à vendre. Mais le suivi n'est pas. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas, quand on met des logements, il n'y a même pas de terrain vert, il n'y a même pas des espaces pour commercial. Donc il n'y a rien et rien. Mais si vous allez peut-être en Zambie, tout est organisé. Tout est vraiment organisé par rapport à nous ici. Donc on s'en fout de tout. Je demande même à la population, celui qui va verser son argent pour le gouvernement, pour le logement, je regrette, parce que ça ne se fera pas. Ça fait déjà combien des années, depuis les mandats passés, on nous a promis des logements. Il n'y a même pas de logements. Il n'y a rien. Et ça ne se fera pas, même ce mandat, qui va terminer, il n'y en aura aucun logement.
Vous êtes très, très inquiet par rapport aux promesses de la fois passée. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de promesses qu'on ne réalise pas, Alfred. Et puis vous avez dit même que depuis 2006, j'ai essayé de.
Partenaires oui. Sont venus proposer qu'on peut construire dans des moins coûts. Et le prix coûté est moins coûté. Mais le gouvernement, qu'est-ce qu'on fait?
Voilà, vous êtes très inquiet parce qu'il y a eu déjà beaucoup de projets, comme on a pu évoquer quelques-uns, mais qui malheureusement ne se sont pas réalisés. Vous ne croyez pas tellement que les autres projets vont se réaliser, mais vous pensez qu'il faudrait peut-être, en créant ces quartiers, qu'on puisse respecter les normes urbanistiques. Par exemple, des espaces verts, des endroits où il faut construire des écoles, des centres de santé, des marchés, des conduites, des égouts, tout cela doit être respecté en créant des cités modernes. Merci beaucoup Alfred de Lubumbashi. Nous avons Clément qui est à Isiro en province orientale. Bonjour Clément.
Bonjour. Moi je pense qu'il fallait peut-être aménager certains logements pénitentiels parce que c'est là où sont logés les Congolais qui ont besoin de rééducation. Que pense notre invité à ce sujet?
Pour vous, vous pensez qu'il faut mettre l'accent sur les résidences pénitentiaires? Cela veut dire que les prisons doivent répondre aux normes et aux conditions, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont logés, qui sont dans les prisons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut concentrer le moyen pour pouvoir améliorer la qualité de l'endroit où ils sont incarcérés. Merci beaucoup Clément. Vous êtes à Isiro, en province orientale. Nous tendons vers la fin de cette émission et nous allons revenir à vous, notre invité, ingénieur Michel Oyumbu. Vous avez suivi les uns et les autres en deux minutes. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette problématique d'accès à l'habitat, par rapport au point de vue des auditeurs, aux différents projets du gouvernement? Qu'est-ce qu'on peut retenir dans cette émission?
Je voulais bien revenir sur l'intervention de l'éditeur qui a parlé de milliers d'euros. Il est évident que si aujourd'hui nous connaissons un problème d'exode rural chez nous, c'est parce que l'arrière-pays a été complètement oublié. Donc, quand on initie des projets de logements sociaux, je pense qu'il faut distribuer dans l'ensemble du pays les différentes unités de logement. C'est vrai que les besoins sont beaucoup plus importants dans les milieux urbains, mais il ne faut pas non plus oublier les milieux ruraux. Il faut penser aussi à l'habitat rural, faire en sorte que celui qui habite chez lui dans un village ait sans soit peu une maison petite soit peine, mais dont le confort minimum est complètement garanti. Donc c'est tout à fait évident comme ça. Et dans d'autres pays du monde, vous rendrez dans ce qui fait la différence entre une ville et un village, ce ne sont pas les infrastructures qu'il y a là-dedans, c'est beaucoup plus la population qu'il y a. Vous trouverez qu'il y a un village de 1000 habitants avec des conditions de logement exactement comme au centre-ville. Donc je pense qu'il faut que chez nous, on arrive à faire des projets, et que ce soit un milieu libéral ou un milieu rural, mais que ce projet-là réponde et garantisse les conforts de ceux qui vont y habiter. Alors, pour revenir à la problématique de l'habitat, C'est vrai que nous accusons un retard énorme en matière de l'habitat, mais nous avons vu des pays comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, nous pensons que depuis que l'ANC est au pouvoir, a produit dans un espace de 15 ans un peu plus de 3 millions d'unités de logement. Mm-hmm. Donc c'est vrai que le problème est énorme chez nous, mais si on met de manière, on met une volonté politique et on fait une bonne planification, on peut arriver exactement à résorber tous les besoins que nous avons en matière d'unités de logement.
Mmh. Voilà. Oui, voilà. Ingénieur Michaud, pour terminer, est-ce qu'il y a... je sais que les ingénieurs, vous, comme vous êtes dans votre domaine, vous êtes assez organisés avec des structures, n'est-ce pas? Y a-t-il de temps en temps le pouvoir public qui vous associe dans l'élaboration de ces différents projets? Parce qu'il ne suffit pas de pointer un terrain, mais il faut aussi, à côté du terrain, mettre toutes mettre tout ce qu'il y a comme pouvoir étude si possible. Y a-t-il des projets auxquels vous êtes associé chaque fois dans vos corporations de ceux qui s'occupent de construction pour savoir comment le mener ensemble avec le pouvoir public?
Non, ça aussi c'est un autre problème. Nous pensons qu'il y a une expertise locale que l'État peut exploiter, mais généralement quand il y a des projets sociaux de grande envergure, et c'est beaucoup plus avec des futurs étrangers que ce projet se négocie. Mmh. Et dans la plupart des cas, ce sont des gens qui viennent mais qui n'ont pas la maîtrise des réalités qu'il y a chez nous. Parce que vous savez, l'habitat est lié à la sociologie et l'habitat est lié à la climatologie. Mmh. Donc vous ne pouvez pas dissocier l'habitat de la sociologie et l'habitat de la climatologie. Mais généralement, quand c'est deux opérateurs externes qui sont associés au projet, il y a des aspects qu'ils ne tiennent pas compte. Mmh. Donc nous manifestons aussi notre désir que prochainement, quand il y a des projets d'envergure nationale et qui concernent les pays dans le domaine d'habitat, que nous, en tant qu'ingénieurs, nous puissions être associés. Mm-hmm. Il y a des corporations qui existent localement, mais malheureusement, jusque-là, nous n'avons jamais été associés. Mm-hmm. Voilà.
Merci beaucoup, ingénieur Michaud Ouyumbu. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ingénieur en bâtiment et travaux publics. Merci en tout cas d'avoir accordé de votre temps aux auditeurs des Radio Capi pour partager ensemble ces sujets autour de l'habitat et les auditeurs à qui nous disons également merci.
C'est moi qui vous remercie.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
On se retrouve demain, vendredi, pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs consacré à la Journée internationale des enseignants célébrée chaque 5 octobre. Les États du monde s'étaient engagés à rendre l'enseignement universel d'ici 2015 en passant par l'amélioration de la qualité de l'enseignement ainsi que des enseignants eux-mêmes. Que proposez-vous pour atteindre l'enseignement universel en faveur de tous les enfants selon les objectifs du millénaire pour le développement? C'est la question au centre de notre échange demain à 11h, 3 minutes heure de Kinshasa. Merci à J.R. Lungembo, Titim Poutou, Guy Manzango pour la production de cette émission supervisée par Nicole Ngaka. Mais ne vous déplacez pas, le programme continue sur Radio Okapi. Au revoir.